Madame Ruth dans votre journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment pour le lire et l'écouter en même, au même moment sur un seul site internet, françaisfacile.fr.
Radio-Chi 101.5 FM.
Avez-vous le talent de la chanson?
Vous aimez chanter en français?
Rejoignez le concours de la chanson française et tentez de représenter Angers au festival de Toruń en Pologne.
Préparez 5 chansons et envoyez-nous vos enregistrements avant le mercredi 7 mai.
Et venez briller sur scène le 14 mai à la Ruche de Belleveille.
C'est gratuit et les seules conditions, être majeur et disponible du 11 au 15 juillet.
Info et inscription sur angersjumelage@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux Angers Jumelage. Faites entendre votre voix et vivez une expérience musicale inoubliable.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, lundi, on était avec le festival à fond de cale qui aura lieu à la Poissonnière du 30 mai au 1er juin. Demain, on sera avec Loire Othion pour parler des actualités qui arrivent très bientôt. Et ce soir, on est avec la médiathèque de la Renloue de Saint-Barthélemy d'Anjou pour présenter le programme de mai et de juin. Il y aura plein d'activités qui vont arriver pour tous les âges, les jeunes enfants, les ados et même les plus grands. Il y aura des activités de création, des spectacles, une scène ouverte et évidemment des activités autour des livres. Et c'est avec Marie-Laure Poutier, bibliothécaire de la médiathèque, qu'on discutera de tout ça dans quelques instants. Ce soir, on aura aussi la chronique Vélopédia de Nico et on écoutera un podcast des légendes angevines. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va écouter un podcast du Graal de l'Histoire et ça parle du pape. On est en plein dans l'actualité.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. Quelquefois, pour asseoir son pouvoir, il faut faire quelques entorses à la vérité. Voire même inventer des textes de toutes pièces. C'est ce qu'ont fait les papes pendant longtemps, et c'est même dit officiellement aujourd'hui. Et c'est celui qui dit qui est. Il y a très longtemps, plus de 1200 ans quand même, ça chauffe pour les papes. Leur pouvoir est parfois mis en cause. Alors, dans ce genre de cas, rien de mieux que de ressortir les contrats. Celui utilisé par le pape Étienne II en 754 était alors inconnu. On l'a pourtant ressorti comme ça des archives. C'est la donation de Constantin. Alors Constantin, c'est le premier empereur romain chrétien. Ce dernier aurait dit que les chefs, c'était les papes. Et ce, sur bon nombre de territoires. Voilà, pratique pour négocier les terres. Pratique aussi quand on se dispute. C'est moi le chef? C'est le premier patron qui l'a dit, et c'est marqué là, regardez là, sur le contrat. C'est ainsi que régulièrement, les papes ressortent ce texte officiel pour asseoir leur pouvoir. Il faudrait attendre 700 ans pour que ce document soit enfin contesté. Et ce n'est qu'en 1518 qu'il fut totalement reconnu fictif. Ce texte avait pourtant une grosse incohérence. On y faisait mention de Constantinople, qui n'existait pas à l'époque de sa supposée écriture. N'empêche que la supercherie a permis à la papauté d'asseoir son pouvoir pour des siècles et des siècles. Amen. À bientôt pour un nouveau Graal de l'Histoire.
Les podcasts du Graal de l'Histoire que vous pourrez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et nous, on peut tout de suite accueillir notre invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais donc tout à l'heure en introduction, ce soir on est avec la médiathèque de l'Aranlou de Saint-Barthélemy d'Anjou pour parler des actualités qui arrivent pour ce mois de mai et le mois prochain en juin. Et pour parler de tout ça, on est avec Marie-Laure Poutier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bibliothécaire à la médiathèque. Alors on peut peut-être parler des actualités qui arrivent, celles qui sont tout publiques. On aura l'exposition Premier Printemps qui arrive le 18, qui a déjà commencé depuis le 18 avril donc. Qu'est-ce que c'est cette exposition ? On peut peut-être en dire quelques mots.
Alors, cette exposition, c'est comme un voyage sensoriel et poétique au rythme des saisons. Cette exposition, c'est l'album Premier Printemps d'Anne Croza aux éditions Mémo. Elle retrace donc les saisons au travers donc d'une petite fille qui découvre, qui goûte, qui sent, qui écoute, qui voit, qui touche la nature. C'est magnifique et donc cette exposition, elle est composée de plusieurs panneaux, de 22 panneaux précisément, qui sont donc exposés à la médiathèque jusqu'à fin juin. Et dans ce cadre-là également, on a un spectacle qui sera proposé par la compagnie Soleil sous la pluie. Ce spectacle retrace également ce parcours et est un dispositif scénique immersif qui interagit avec les matières, les gestes dansés, le son. C'est pour les enfants, pour les petits, de 6 mois à 6 ans.
Et alors du coup, c'est un spectacle et une exposition qui tourne un peu autour des cinq sens finalement.
C'est ça, tout à fait. Autour des cinq sens, autour de la nature, du cycle de la vie aussi, parce que cette petite fille, tout simplement, on la voit évoluer au fil des saisons, et puis elle devient, donc elle prend un an finalement entre le début de l'exposition, enfin le début de l'histoire et la fin de l'histoire. C'est l'occasion vraiment de découvrir aussi le travail de cette illustratrice Anne Croza, qui travaille principalement sur Illustrator. Donc c'est aussi le plaisir des yeux à travers cette exposition. Donc ça s'adresse vraiment à tous. Voilà.
Et Anne Croza, c'est une illustratrice du coin ou c'est quelqu'un qui est connu au niveau national ?
C'est quelqu'un qui est connu au niveau national. Elle a écrit énormément de livres. Je pourrais pas précisément vous dire le nombre de livres, mais je crois qu'on est bien à une vingtaine. Anne Croza, elle a beaucoup travaillé aux éditions Mémo. Elle travaille beaucoup avec les éditions Mémo, qui est donc une maison d'édition qui est dans le secteur nantais. Donc on est dans le coin. Et elle, Anne Croza, elle travaille. Son premier livre a été donc Raymond Rêve, qui est l'histoire d'un petit escargot qui évolue, qui change un petit peu de coquilles selon son envie, selon ses désirs, et donc tout son travail tourne vraiment autour de la nature. Et donc tous ses livres sont évidemment à cette occasion exposés aussi à la médiathèque. On peut les consulter, prendre le temps de les regarder, voilà.
Tout ça est plutôt destiné à un jeune public, peut-être pas l'exposition.
Alors en fait, c'est destiné au jeune public, mais l'adulte aussi a plaisir à regarder, à admirer et à la fois l'exposition et à la fois les livres qui s'adressent finalement d'une certaine manière à tous. C'est une façon aussi de redécouvrir la nature, de prendre le temps d'observer. Donc voilà, pour moi ça s'adresse vraiment à tout le monde.
Alors on peut peut-être donner à voir à nos auditeurs à quoi ressemblent ces panneaux. Est-ce que c'est très coloré ? Est-ce qu'il y a de la matière ?
Non, il y a pas de matière, puisqu'en fait ce sont des panneaux sous bâche tout simplement, mais c'est vraiment le travail d'illustration que fait Anne Croza qu'on peut découvrir à travers ces panneaux. Il faut savoir que c'est assez coloré, oui. Ouais, c'est plutôt coloré dans l'ensemble et dans toutes les propositions qu'elle peut faire, c'est très coloré en général.
Vous avez pu avoir quelques retours de personnes. Qu'est-ce qu'on vous dit que c'est très beau, c'est très...
Oui, on nous dit que c'est beau, c'est l'occasion de découvrir quelqu'un, un auteur, une illustratrice à travers cette expo. Donc je pense que ça plaît bien. Et puis dans le même temps, en fait, on fait tout un travail avec les classes autour de cette exposition et autour de l'univers de cette illustratrice. Et on a des très bons retours, oui. C'est C'est positif.
Alors, du coup, vous aurez jusqu'au 21 juin pour découvrir tout ça. Il y a une autre date qui va arriver prochainement. C'est M'as-tu vu ? C'est une scène ouverte. Alors, il y a déjà des dates qui sont passées. Hein, le 4 janvier, 1er février, 1er mars. Et là, la prochaine date, si je me trompe pas, c'est le 7 juin.
C'est ça.
À 16h. Qu'est-ce qu'on pourra y faire sur cette scène ouverte, Marie-Laure ?
Alors, cette scène ouverte, c'est vraiment l'idée de laisser le public faire ce qu'il souhaite, soit jouer de la musique, lire un extrait d'une poésie, d'une pièce de théâtre, chanter, tout est possible en fait. On les laisse décider de ce qu'ils ont envie de nous faire partager. L'objectif de cette scène ouverte, c'est d'inviter les habitants à participer, à faire vivre la médiathèque au travers de leurs petites créations. Voilà.
C'est ouvert à tous les âges.
C'est ouvert à tous les âges. On a vraiment des plus grands, on a eu de tous les âges jusqu'à présent.
Qu'est-ce qui ressort beaucoup? Parce que je vois qu'on peut exprimer tous ses talents, lecture, musique, chant, théâtre. Qu'est-ce qui revient le plus souvent?
Beaucoup de poésie. Poésie de la musique également. On a eu des instruments de musique qui nous ont été proposés. Mais c'est surtout, oui, de la poésie jusqu'à présent. Mais on est vraiment ouvert à tout. Donc, libre aux gens de venir avec ce qu'ils ont envie de nous faire découvrir.
Et c'est des gens de tous les âges, du coup, qui viennent présenter leur projet, je ne sais pas comment on peut dire.
Tout à fait, tous les âges, oui, oui.
Alors, on aura aussi, il ne reste qu'une seule date, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Le 7, est-ce qu'il faut réserver ?
Alors, il n'y a pas besoin de réserver, il faut juste se présenter 10 minutes avant le début de la scène ouverte à l'accueil de la médiathèque pour informer donc du souhait de la personne de participer. Et tout simplement, ce que je peux vous dire également, c'est que cette scène ouverte a lieu tous les mois, donc en septembre ça reprend, tous les mois, début du mois, premier samedi précisément. Il est possible de venir à la médiathèque et de faire découvrir son talent.
Et voilà, une occasion parfaite pour se faire découvrir auprès d'un public. Ensuite, une semaine pile poil jour pour jour après, le 14 juin, on aura le marché aux livres. Alors, ça sera Parc de l'Europe dans le cadre de Rancart. C'est ça ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait des années que la médiathèque propose ce marché aux livres à l'occasion de cette fête. Ce sont tous les livres de la médiathèque que nous devons que nous vendons à cette occasion. Enfin, tous les livres, des livres de la médiathèque que nous vendons, qui sont retirés des rayons, puisque on a un turnover bien sûr de livres et on est obligé de retirer une partie de notre fonds chaque année. Et ce sont ces livres-là que l'on propose à cette occasion au marché aux livres.
Alors, on peut peut-être repréciser ce que c'est Rancart pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Alors, les Rancarts, c'est une fête qui est proposée donc par la municipalité au Parc de l'Europe chaque début, le premier week-end de juin généralement. Donc là, ça a été repoussé au 14 juin. Et à cette occasion, tous les services sont représentés. Il y a différentes animations qui sont proposées.
Et concernant les livres de la bibliothèque, donc, qui sont vendus, ceux qui n'arrivent pas à être vendus, qu'est-ce qu'on en fait ? On fait des dons ?
Alors, ça part très très vite. Et ça part on vend les livres à 1 euro. Donc, la plupart des livres que l'on vend sont vendus, repartent. On a même full au début. Les gens se jettent sur les livres. Donc, on repart en général avec les caisses vides.
L'idée, c'est pas de générer de l'argent, finalement, c'est de pouvoir essayer de tout redonner.
C'est ça. Oui, on génère très peu d'argent avec cette vente. L'idée, comme vous dites, c'est principalement, justement, de pouvoir avoir ce turnover au sein de la médiathèque. Et donc, ça permet de leur donner une seconde chance à ces livres.
Merci Marie-Laure. On reparlera des prochaines actualités tout à l'heure, notamment celles qui concernent les jeunes enfants de 0 à 5 ans, mais aussi des adolescents. Mais juste avant tout ça, on va faire un petit détour. On va écouter de la musique Vendée Globe de Péniche.
Thank you.
On écoutait Vendée Globe de Péniche sur le 101.5 FM et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est avec Marie-Laure Poutier, bibliothécaire à la médiathèque de la Renloue, pour parler des actualités qui arrivent. Et alors, on parlait donc avant de celles qui étaient tout publiques. Mais si on se concentre maintenant sur les activités pour les plus jeunes, pour les 0-4 ans, par exemple, on aura les petits racontages. Je crois que c'est une lecture animée, c'est ça, Marie-Laure ?
C'est ça, tout à fait. C'est l'occasion donc pour les bibliothécaires d'animer avec des objets, avec de la musique, avec des comptines, les livres de la médiathèque pour les plaisirs des plus petits. Ça s'adresse vraiment aux tout-petits, aux 0 jusqu'à 4 ans, on va dire.
Et alors, comment on fait pour faire découvrir la lecture aux plus jeunes ? Il faut des choses assez courtes dans le temps ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment un petit moment qui dure à peine 20 minutes. Souvent, ça dure un petit peu plus parce que les enfants ont la possibilité de toucher les objets par la suite. Mais c'est très court, en effet, et on ponctue de beaucoup de musique et de comptines pour que les enfants aient une attention jusqu'à la fin.
Il faut vraiment les stimuler de partout.
Oui, c'est une stimulation poétique, on va dire. Mais après, ça reste des tout petits et c'est normal aussi qu'ils bougent. C'est le principe aussi. Il faut faire avec ça. C'est normal à cet âge.
Est-ce qu'ils sont très attentifs ? C'est quelque chose où on remarque qu'ils aiment bien les petits, la lecture comme ça ?
Oui, tout à fait. Ça se voit notamment sur les chants. En fait, souvent, ils essaient de répéter les petites chansons que l'on peut faire. Et puis, on le voit à leurs yeux. Ça se ressent, oui.
Est-ce que c'est un public qui est facile à prendre en charge ? C'est un public pas trop compliqué, ça va ?
Non, c'est pas un public compliqué parce que c'est un public qui est très réceptif au final et puis qui prend tout ce qu'on a à donner. Donc c'est toujours très agréable. C'est du plaisir en fait avec cet âge.
Et alors pour les un peu plus grands, les 6-15 ans, on aura d'autres activités, notamment la projection d'un film contre le racisme. Alors on vous laisse le suspense. On vous donnera pas le nom du film, il faut s'inscrire à l'activité. Alors elle est quand ? On peut peut-être préciser la date ?
Le mercredi 21 mai à 15h, elle s'adresse aux ados à partir de 12 ans. Il s'agit vraiment de mettre en avant un film qui dénonce le racisme et qui permet à tous de réfléchir à nos préjugés.
Eh bien parfait, on donne rendez-vous, on peut peut-être réserver sur le site de la bibliothèque, c'est ça ? Ou directement sur place ?
Directement sur place ou en téléphonant, ce n'est pas possible pour le moment sur le site.
Très bien, eh bien c'est noté. De notre côté, on aura aussi le vendredi 6 juin, ça va bientôt arriver à 17h30, un club jeunesse, il va se passer plein de choses autour du livre. On peut peut-être détailler ce qui va se passer, il y aura des jeux, des partages, des goûters.
Alors le club jeunesse, c'est un moment où l'objectif en fait c'est de partager un peu ses coups de cœur. Les enfants viennent avec leur livre préféré ou plusieurs livres s'ils le souhaitent et ils le présentent, ils en parlent et chacun se donne ainsi des idées, des conseils, des coups de cœur. Nous, en tant que bibliothécaires, on est là aussi pour proposer les nouveautés, pour leur donner l'envie d'aller vers des nouvelles BD, des nouveaux romans. C'est l'occasion de partager un moment avec eux. Souvent, ça se ponctue d'un petit temps de jeu et puis d'un goûter, bien sûr, pour le plaisir.
Alors, on dit souvent que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la lecture, lisent de moins en moins. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez ou finalement, ça reste quand même ?
Nous, on le constate pas forcément à la médiathèque puisque les enfants qui viennent sont souvent les enfants qui viennent sur ces clubs sont souvent des grands lecteurs et on a aussi la chance d'avoir des enfants qui viennent très régulièrement dans le cadre des accueils de classe et on voit qu'ils ont plaisir à prendre les livres, plaisir à lire. Après, ils utilisent différents supports et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas qu'un support, il y en a plusieurs et c'est ça aussi qui est chouette. Nous, en tout cas, on le constate pas tant que ça.
Et alors, c'est sur quel genre de support qu'ils lisent ?
Disons que ce que je voulais dire par là, c'est que au-delà du roman, il y a aussi déjà la BD, il y a le manga. On a des grands fans de manga, des grands fans de BD, mais aussi on peut retrouver, quand je parlais de support, ça peut être aussi d'autres manières de lire. On a des livres interactifs aussi qui jouent avec la tablette. Il faut aussi s'ouvrir à toutes les possibilités et c'est ça qui est chouette, c'est aussi s'adapter à notre public et à ses attentes.
C'est ce que vous faites au sein de la médiathèque, justement, vous diversifiez peut-être votre offre.
Oui, donc on a des livres animés notamment, par exemple, ça reste pour l'instant une petite quantité d'ouvrages, mais en tout cas on a des propositions qui sont variées, et puis surtout on essaie de leur donner l'envie d'aller vers nos coups de cœur, d'aller vers des romans, des BD, que l'on a dans la médiathèque et qui pourraient aussi les intéresser.
Et on va continuer à parler des activités qui arrivent pour le mois de mai et de juin prochain, mais on va parler de celles qui sont plutôt pour le jeune public, voire le très jeune public. Mais juste avant tout ça, on va passer à la chronique Vélopédia de Nico.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon, avec Nico, dans Topette.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vélopédia, nous plongeons dans un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans les villes mais aussi à la campagne. Je parle du vélobus pour enfants, un concept simple mais brillant qui transforme la manière dont nos enfants se rendent à l'école, avec plein d'avantages pour la planète, la santé et même la cohésion sociale. Alors, c'est quoi un vélobus ? Eh bien le vélobus, c'est tout simplement un ramassage scolaire à vélo encadré par des animateurs ou des bénévoles, bien souvent les parents d'élèves. Des horaires de passage fixes avec des arrêts précis comme un car ou un train peut le proposer. Il existait le pédibus dans les communes, voici donc maintenant le vélobus. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Moi j'appelle ça les petits pelotons. Le vélobus s'inscrit dans une logique de mobilité durable. En pédalant chaque jour, les enfants font de l'exercice, développent leur motricité et ont un accès direct à l'air frais, loin de la sédentarité que génère un trajet en voiture. Ils arrivent donc à l'école vifs et de bonne humeur. De plus, cette pratique donne plus de temps aux enfants le matin et le soir grâce à un accès direct à vélo à leur école, encadré par des adultes pour une sécurité maximale sur un trajet adapté à vélo. Contrairement à un pédibus, le vélobus donne l'accès à l'école pour les enfants plus éloignés que certains et qui ne peuvent pas venir à pied. Et donc encore une fois, on laisse la voiture à la maison. Le vélobus permet de faire circuler les enfants groupés et donc de prendre une seule place dans la circulation tous ensemble, plutôt que chacun de leur côté. C'est à la fois un avantage pour eux, mais aussi pour les voitures. Plus besoin de passer les vélos un par un, ils sont tous ensemble regroupés et visibles grâce à leur gilet jaune. On gagne du terrain les gars. Récemment d'ailleurs, la commune de Bushmen s'est organisée pour faire du vélobus. J'ai même aussi remarqué des vélobus dans la campagne entre Angers et Saumur. Ce n'est donc pas réservé aux grandes villes. Et en parlant de grandes villes, Angers est actuellement en sondage pour le baromètre vélo dont je vous ai présenté l'objectif il y a quelques semaines. Sachez donc que vous êtes toujours attendu, et ce jusqu'au 2 juin 2025, pour donner votre avis, cycliste ou non. En plus, on va recevoir une étape du Tour de France féminin cette année. Angers, c'est vraiment une ville vélo. Allez, salut.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico, dans Topette.
Nico, qu'on pourra retrouver dans 2 semaines sur Topette, toujours pour parler de vélo. Et nous, on retourne tout de suite avec notre invité du soir.
18h10, 19h, c'est Topette, sur Radio G.
On est avec toujours la médiathèque de l'Art en Loup et Marie-Laure Poutier pour parler de ce qui va arriver à la médiathèque prochainement. Et donc, il y a des fois des partenariats avec d'autres structures, notamment là avec le village Pierre Rabhi de Saint-Barthélemy d'Anjou. Ça sera les mercredis 11 juin et 18 juin. C'est une activité qui s'appelle « Créer ta boîte à souvenirs ». Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire, Marie-Laure ?
Alors, sur cette activité, l'idée, c'est de créer une capsule temporelle. Un peu comme une boîte où on y glisse tous nos souvenirs, on l'enferme dans un endroit et puis quelques temps après on la réouvre et on découvre avec plaisir tout ce qu'on a enfui à l'intérieur de cette capsule temporelle. Donc là, pour l'occasion, on s'est dit à la médiathèque, on va les laisser au chaud, bien au chaud à la médiathèque, et on propose aux enfants de venir les récupérer un an après. On s'est dit un an. Après, si l'enfant a envie de la récupérer 2 ans après, pourquoi pas. En tout cas, l'idée, c'est que il y ait le plaisir à redécouvrir qu'est-ce qu'il a pu y glisser à l'intérieur.
Et justement, qu'est-ce qu'on peut y glisser à l'intérieur? C'est vraiment de tout, des souvenirs, des petits objets?
De tout, exactement. Alors, ce sera très différent pour les 6-10 et pour les 10-15 ans, puisqu'on a deux séances qui sont proposées. Une le mercredi 11 juin à 16h pour les 6-10 ans et une autre le mercredi 18 juin à 16h pour les 10-15 ans. Et donc, pour les 6-10 ans, on va évidemment partir sur des activités qui sont donc plus adressées à leur âge. Les 10-15 ans, on va partir... plus sur aussi de la réflexion, qu'est-ce qu'on pourrait y glisser, qu'est-ce qu'on aurait envie de découvrir un an après. En un an, il se passe beaucoup de choses dans la tête d'un enfant, quel que soit son âge d'ailleurs. Et donc ça va être des petits objets qu'on va y glisser. Je vais pas tout dévoiler bien sûr, parce que le but c'est de pas tout dire. Voilà, on va faire un petit livret aussi, on va pouvoir y cacher des secrets à l'intérieur avec des petites enveloppes. Voilà, le but est de vraiment s'amuser à y cacher un petit peu ce qu'on a envie d'y mettre et prendre plaisir à les retrouver ensuite. Et puis on aura aussi la possibilité de se prendre en photo, donc pour capturer l'instant bien sûr.
On laisse un peu de suspense, donc c'est sur réservation. On peut réserver pareil directement à la médiathèque.
C'est sur réservation, on peut réserver soit au village Pierre Rabhi, soit à la médiathèque. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas. Et c'est vraiment un instant de le but étant de passer un bon moment et de pouvoir garder en mémoire tous ces bons souvenirs par la suite.
Et alors justement, est-ce qu'il y a des partenariats comme ça avec d'autres structures de la ville? Là, c'est le village Pierre Rabhi. Est-ce qu'on collabore avec d'autres structures de Saint-Barthélemy d'Anjou?
Oui, bien sûr, évidemment. Par exemple, on travaille régulièrement avec le relais Petite Enfance. On leur propose des créneaux d'ailleurs d'accueil. Avec la coordinatrice du relais Petite Enfance, on va faire des animations à destination des plus petits. Ça s'adresse évidemment aux enfants qui ont entre 0 et 3 ans, qui ne sont pas encore scolarisés. On travaille bien sûr avec le village Pierre Rabhi sur différentes actions, soit à la médiathèque, soit à l'extérieur de la médiathèque. Et puis bien sûr, tous les partenaires sont possibles. On travaille bien sûr avec les écoles de manière assez régulière, évidemment.
Et avec les écoles, qu'est-ce qu'on fait? On accueille les scolaires au sein des bibliothèques, mais est-ce qu'on a d'autres activités? Est-ce qu'on met en place des activités justement avec les scolaires, peut-être pour les inciter à la lecture?
Oui, tout à fait. Alors, on a des temps que l'on dit un peu libres, où on laisse les enseignants découvrir le lieu et profiter de l'espace tout simplement, et prendre les livres qu'ils souhaitent dans la médiathèque. Et puis, on a des temps animés. Ces moments-là, en fait, les bibliothécaires, on les prépare, et ces temps-là, en général, on les travaille sur des thématiques. On peut soit faire venir un auteur, soit faire venir un illustrateur, soit faire un temps, une thématique, enfin faire venir une exposition, par exemple. Tout est possible sur ces animations thématiques. Le but, c'est que les enfants passent un bon moment, que ce soit assez ludique quand même, et qu'ils aient l'envie de revenir ensuite après à la médiathèque.
Alors, on le disait tout à l'heure en antenne, mais finalement, les enfants sont très curieux. On a l'impression que plus personne ne lit, mais c'est pas vrai, finalement.
C'est pas ce que l'on ressent, nous, dans nos structures, puisqu'en fait, les enfants, on essaie de les capter, on essaie de trouver des moyens, en tout cas, de leur donner l'envie. Et les animations que l'on propose, en tout cas, on les sent toujours partants. Motivés, moteurs. Donc après, ce sont des tranches d'âge aussi sur les primaires. C'est assez aisé, puisqu'en fait c'est une tranche d'âge où ils ont l'envie d'apprendre. On travaille aussi avec les collèges. Avec le collège, là on fait des actions plus. On a fait des actions autour du cinéma. Donc c'est essayer aussi de capter ce qui peut intéresser aussi le public en fonction de sa tranche d'âge.
Et justement, il y aura sûrement pas mal de choses qui pourront intéresser les jeunes dans toutes les activités qu'on vient de citer. Est-ce que, Marie-Laure, on a un site internet peut-être qui recense toutes les activités de la médiathèque ?
Oui, alors le site de la médiathèque tout simplement, et puis vous avez juste en fait à taper médiathèque Saint-Barthélemy, vous allez retrouver le site. Vous pouvez aussi aller sur notre page Instagram, sur notre compte Instagram ou notre page Facebook, et là vous aurez évidemment toutes nos informations. On actualise régulièrement tout ce qui peut se passer à la médiathèque.
Et alors pour les réservations, pardon, du coup, plutôt se rendre directement à la médiathèque.
Oui, ou tout simplement nous passer un petit coup de téléphone.
Et nous, on mettra le site internet de la médiathèque de l'Aranlou en barre d'informations du podcast que vous pourrez donc retrouver dans l'onglet émission du site internet de Radio G. Et concernant le reste de la semaine pour le programme, moi, demain, je vous retrouverai avec Loire Othion. On parlera des 25 ans du festival du rock et des vaches, des cueillettes solidaires, mais aussi de fleuves en fête. Nous, on va se quitter avec un podcast des légendes imaginaires de l'Anjou. Et moi, je vous dis à demain et topette.
Bienvenue dans notre exploration des mythes et légendes de l'Anjou. Nous vous invitons dans la charmante commune de Beaufort-en-Anjou, nichée au cœur du Val-de-Loire, où se cache un secret bien gardé depuis des siècles. Dans la rue des Plantagenêts, dans le jardin bien entretenu d'une petite maison, se trouve un puits dont l'histoire fascine les habitants depuis des générations. L'histoire de ce puits remonte à l'époque où la puissante famille des Plantagenêts régnait sur l'Anjou. Beaufort, alors appelé Beaufort-en-Vallée, était une place forte stratégique entre Angers et Saumur. La légende raconte que c'est Foulque V d'Anjou, père de Geoffroy V Plantagenêt, qui fit creuser ce puits en 1120. À cette époque, Beaufort était réputé pour ses sources aux vertus curatives. L'impasse Guérin des Fontaines, située à quelques pas de la rue des Plantagenêts, témoigne encore aujourd'hui de cette richesse hydrologique. Le nom Guérin proviendrait d'un guérisseur local qui utilisait ses eaux pour soigner les malades. La particularité de ce puits ne fut découverte que bien plus tard, au début du XVIe siècle. On raconte qu'en 1517, alors que la région subissait une terrible sécheresse, le puits de la rue des Plantagenêts continuait de fournir une eau fraîche et abondante. Plus étrange encore, certains villageois affirmaient que l'eau puisée à la pleine lune avait des propriétés miraculeuses. Les rumeurs sur les pouvoirs de ce puits se propagèrent rapidement. On disait que boire son eau à minuit, le soir de la Saint-Jean, permettait de voir l'avenir. D'autres prétendaient que s'en asperger lors de l'équinoxe de printemps guérissait toutes les maladies. Ces récits attirèrent l'attention de l'Église. En 1542, l'évêque d'Angers, Gabriel Bovary, envoya des émissaires pour enquêter sur ces phénomènes. Le rapport conservé dans les archives diocésaines fait état de manifestations inexplicables et recommande de placer le puits sous la protection de Notre-Dame. Pendant les guerres de religion qui secouèrent la France dans la seconde moitié du XVIe siècle, Beaufort fut plusieurs fois assiégé. Le puits magique fut oublié dans la tourmente, son histoire transmise uniquement par tradition orale au sein de quelques familles. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec le renouveau de l'intérêt pour le folklore local, que la légende du puits ressurgit. L'écrivain angevin André Sarrazin mentionna brièvement le puits au miracle de Beaufort dans son almanach des légendes d'Anjou publié en 1856. En 1923, lors de travaux de rénovation de la maison, on découvrit l'importance historique du puits. Des fouilles archéologiques menées en 1925 par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Beaufort-en-Vallée mirent au jour des pièces de monnaie datant du XIIe au XVIe siècle, ainsi qu'une médaille religieuse du XVIIe siècle représentant Notre-Dame des Eaux. Depuis lors, le puits est devenu un petit trésor local, précieusement entretenu par les propriétaires successifs de la maison. Aujourd'hui, c'est Françoise J. qui en est la gardienne. Françoise a hérité de cette maison de ses grands-parents en 1985. Depuis, elle consacre une grande partie de son temps à l'étude et à la préservation de ce patrimoine unique. Elle a constitué une impressionnante collection de documents historiques relatifs au puits et recueille inlassablement les témoignages des habitants. Chaque année, le 24 juin, jour de la Saint-Jean, nous organisons une petite cérémonie autour du puits, explique Françoise. Les gens viennent de tout le département pour boire une gorgée d'eau et faire un vœu. Bien sûr, c'est euro symbolique, mais ça permet de faire vivre notre histoire locale. Si la plupart des habitants de Beaufort-en-Anjou considèrent l'histoire du puits magique comme une charmante légende, certains persistent à croire en ses pouvoirs. Des analyses de l'eau effectuées en 2018 ont révélé une composition minérale particulièrement riche, ce qui pourrait expliquer certains de ses effets miraculeux. Le mystère du puits de la rue des Plantagenêts continue de fasciner. Est-ce simplement le fruit de l'imagination populaire ou y a-t-il une part de vérité dans cette légende séculaire ? Quoi qu'il en soit, ce petit coin de Beaufort en Anjou reste un témoignage vivant de la riche histoire de l'Anjou et de la façon dont les mythes se construisent et perdurent à travers les âges. Aujourd'hui, le puits et sa légende attirent chaque année de nombreux curieux et passionnés d'histoire locale. Il est devenu un élément important du patrimoine culturel de Beaufort en Anjou, rappelant à tous l'importance de préserver et de transmettre les traditions orales qui font la richesse de notre héritage commun. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde des mythes et légendes de l'Anjou.
Toute la belle bande de tocards. cocktail Balthazar. Costard, cravate, écoute, savate, c'est la mafia. Aristocrate, nourri au foie gras et au miel. Par la tribune présidentielle, on leur jettera nos mégots. En les traitant de collabos, puis on crachera salement des trucs affreux. Gluons parce qu'on aime bien les voir tirer la gueule le soir. La vie c'est dur, putain. La vie c'est dur, putain. La vie c'est dur, putain.
moment de jouer. Vous êtes sur Radio G et vous écoutez le QG. Bienvenue.